Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1895, à West Ham, dans le quartier des Docks, à Londres, Robert Coombs a 13 ans. Et il dort avec sa mère, Emily, une belle femme, un peu gironde, de 40 ans. Dormir avec sa mère à 13 ans, ça peut paraître étonnant. Et pour tout dire, un peu malsain. Mais à cette époque et dans ce quartier, c'était assez courant. Le manque de place, la promiscuité. Et pourtant, les Coombs ne sont pas miséreux. Le père est chef steward sur un bateau à vapeur transatlantique. Il est payé 6 livres par traversée, l'équivalent de 800 euros d'aujourd'hui. De quoi payer le loyer et nourrir la famille. Il est juste souvent absent. Et ce 8 juillet 1895, il est en mer au milieu de l'Atlantique Nord. Alors Robert est un peu l'homme de la famille. Il a commencé à travailler à 13 ans dans un chantier naval. Plus intelligent, plus décidé que son frère Natty, qui a un an de moins. Cette nuit de juillet 1895, c'est la canicule. Il n'a pas plu sur Londres depuis plusieurs semaines. Robert a acheté un couteau de marin, une dague, une lame de 11 cm recourbée avec un manche en laiton. Et il l'a glissé sous son oreiller. À 4 heures du matin, il se lève, il prend le poignard et d'un coup il le plonge dans le buste d'Emily, dans le buste de sa mère, entre les deux seins. Et il atteint le cœur. Puis il sort de la chambre, il va voir son petit frère, Natty, et il lui dit « It's okay, that's done. » Ça y est, c'est fait. Il emmène Natty dans la chambre de sa mère. Quand ils entrent, Emily râle encore. Robert la poignarde à nouveau. Maintenant, elle ne bouge plus. Et il se recouche à côté d'elle. Ce qui, entre nous, peut paraître monstrueux. Il se couche près de sa mère qu'il vient de tuer. Et il s'endort. Mais ce gamin n'est pas un monstre. Et je vais vous le prouver. Le lendemain matin, le lundi, à 6 heures, il fait déjà jour. Les deux garçons sont habillés. Ils sortent de chez eux. Dans l'arrière-cour, ils croisent leur voisin, Monsieur Robertson. Robert lui tend une pound, une livre. Est-ce que vous pouvez payer la propriétaire tout à l'heure? Il n'y aura personne à la maison aujourd'hui. On va voir un match de cricket. Votre mère vient avec vous? Non, elle est partie voir Tata à Liverpool. On a un oncle qui est mort en Afrique. Puis les deux garçons vont prendre le tram. Ils vont au Lord's, le stade de cricket du nord de Londres. En rentrant, ils viennent récupérer la monnaie et la quittance de loyer chez le voisin. Cette nuit-là, ils ne montent pas à l'étage. Ils dorment tous les deux dans le salon. Le cadavre de leur mère est toujours dans le lit. Le mardi, encore cricket et le soir, théâtre, le théâtre royal qu'on vient de construire dans le quartier. Et le soir venu, ils dorment encore dans le salon et le cadavre de leur mère est toujours là-haut. Le mercredi, ça fait 3 jours que Natty sèche l'école, qui est pourtant obligatoire jusqu'à 12 ans. Robert, lui, n'est pas allé travailler. Ils n'ont plus d'argent. Ils montent à l'étage pour récupérer 2 montres en or. Le cadavre de leur mère est là, en train de se décomposer. Et ils vont sur les docks. Pas facile de se représenter ce qu'était ce quartier industriel à l'époque, le cœur économique de l'Empire britannique. Des entrepôts, des chantiers navals, des usines de gaz, des papeteries, des fonderies, ça dégage des fumées épaisses et des odeurs tenaces. Le quartier grouille d'ouvriers et de marins de toute nationalité, britanniques, irlandais, malais, indiens, suédois, chinois, le tout dans un vacarme assourdissant. Les machines qui grondent, les trains qui passent, les coups de sirène, le fracas des chaînes et des treuils. Les garçons franchissent le portail gigantesque du Royal Victoria Dock. Ils viennent voir un ami de la famille. Ils ont besoin d'un adulte pour vendre les montres. Les prêteurs sur gage ne traitent pas avec les enfants. Cet homme s'appelle John Fox, il a 45 ans. Il est maigre, il est sale, il est tatoué, il a une tête de pirate. Un peu clochard, un peu homme à tout faire. Il rend des services à la famille Coombs, du bricolage, du jardinage. Il a servi sur les bateaux avec Coombs père. Il en a vu, John Fox. Il raconte par exemple que quand il était sur l'Égypte, un vapeur qui transportait du bétail et du coton de New York vers Liverpool, le feu a pris au milieu de l'Atlantique et que lui et les autres ont lutté des heures contre les flammes avant de s'entasser sur 6 canots de sauvetage qu'ils ont ramés pour s'éloigner des vaches qui sautaient dans l'océan et menaçaient de renverser les canots. Par miracle, un navire de passage les a recueillis. Depuis, Fox ne navigue plus. Il dort sur les bateaux à quai, il dort sur les docks, il traîne. Robert lui explique que leur mère voudrait qu'il veille sur eux, qu'elle est partie à Liverpool, qu'elle le paiera à son retour, et qu'elle voudrait qu'il mette ses montres en gage. John Fox, l'homme qui en a vu d'autres, gobe leur histoire, ou en tout cas il fait mine. L'argent des montres, il se dit peut-être qu'il pourra lui aussi en profiter. D'ailleurs, le soir venu, il est avec les garçons dans le salon pour dormir. Le lendemain matin, Fox et les gamins arrivent à gager les 2 montres. Et avec l'argent, les 3 larrons s'installent dans une vie à base de parties de cartes, de matchs de cricket, de pêche dans l'embouchure de la Tamise et de virée dans les pubs. Une vie de cocagne pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, le cadavre d'Emily est toujours là-haut, dans la chambre. Jusqu'à ce que le 17 juillet au matin, le livreur de lait, le milkman, en faisant sa tournée, remarque une odeur épouvantable qui se dégage de la maison.
Europe 1, on de la traconte.
Le milkman, l'homme qui distribue le lait dans les rues de Londres, a senti une odeur de mort. Alors il en a parlé au voisin, qui lui-même a fait prévenir la tante des enfants. Et la voilà qui arrive, la tante. Elle toque à la porte, plusieurs fois. Les 2 garçons et Fox sont en train de jouer aux cartes. Robert finit par lui ouvrir. Quand il voit sa tante, Natty, le plus jeune, saute par la fenêtre et s'enfuit à travers les jardins. « Où est votre mère ? Elle est partie chez Madame Cooper. » Non, je ne le crois pas. Est-ce que je peux monter dans sa chambre ? » La tati monte. Elle ouvre la porte. Elle distingue une forme sur le lit, recouverte d'un drap. La puanteur est insupportable. Il y a tellement de mouches dans la pièce qu'on n'y voit rien. Et maintenant, il y a un agent de police, le constable Robert Twort. Il porte un uniforme bleu marine et son équipement réglementaire, un casque, un bâton, un sifflet, un calepin et un crayon. Quand il soulève le drap, il voit le corps d'une femme qui grouille d'asticots. Il y a 2 plaies béantes dans la poitrine. La vermine a déjà dévoré les cuisses, les parties génitales, les yeux et le nez. Il note, elle était en sous-vêtements et non en chemise de nuit. Sur le sol, il y a un couteau et un gourdin sur le plancher. Le constable Twort se tourne vers Robert. « Oui, monsieur, c'est moi qui ai fait ça. Mon frère a reçu une raclée pour avoir volé un peu de nourriture et maman m'a dit qu'elle m'en donnerait une à moi aussi. Alors Natty m'a dit qu'il voulait la suriner. Mais comme il ne pouvait pas le faire lui-même, je m'en suis chargé. » Son explication est désarmante. Les 2 garçons et leurs copains, John Fox, sont conduits au poste de police. Et le lendemain, le juge Bagalé envoie les 3 compères à la prison de Lowey. L'instruction peut commencer. L'homme qui va diriger l'enquête, le coroner, décide de s'installer au Liverpool Arms. C'est un pub du quartier. Et les témoins défilent donc dans le pub. Fox était-il au courant ? Natty était-il complice ou juste influencé par son frère ? Et enfin, qu'est-ce qui peut bien pousser un enfant de 13 ans à poignarder sa mère ? Fox est décrit comme un brave garçon, un peu simplé. Quant au jeune Natty, il n'a pas assez de personnalité pour avoir manipulé son frère. La clé de tout, c'est donc Robert. Les témoins que le coroner reçoit au pub disent qu'il est intelligent, qu'il est volontaire, qu'il est bon en classe et qu'il est passionné de lecture. Ça ne nous fait pas un assassin, ça. Et encore moins l'assassin de sa mère. Écoutez bien ce qui va suivre. À l'époque, la presse a son explication. C'est la faute des livres qu'il lisait. Après le meurtre, il y a même des journaux pour demander qu'on interdise ces livres. Le St. James Gazette, par exemple, écrit « Les frères Coombs, avec leur intelligence scientifiquement développée aux frais du contribuable, ont été amenés à considérer le meurtre comme une blague par l'étude assidue de la pire sorte de fiction, sanguinaire. » Au final, tous les trois sont renvoyés devant le tribunal. Robert pour homicide volontaire, Natty pour complicité et Fox pour non-dénonciation. À l'époque, en Angleterre, on jugeait les enfants de 7 à 14 ans comme des adultes, pourvu qu'ils soient capables de distinguer le bien du mal. Pour le meurtre de sa mère, Robert risque la pendaison. Le procès se tient en septembre 1895 dans les locaux de Lord Bailey, le tribunal criminel. Il est présidé par le juge Kennedy, qui est un latiniste très attaché à la tradition et qui, chaque matin, avant de siéger, fait poudrer et arranger sa perruque. Il y a un monde, un gouffre, un océan entre cet homme un peu précieux et perruqué et le trio Robert, Natty, John Fox. Cette semaine-là, au tribunal criminel, il n'y a pas que l'affaire Coombs. Le programme est chargé. Une rixe mortelle autour d'une femme infidèle, le viol d'un enfant, le meurtre d'un poissonnier par son employé, un soldat qui a tué une prostituée, un avocat qui faisait chanter un pasteur homosexuel et une domestique de 13 ans qui avait mis le feu à la maison de sa patronne. Tout ça à expédier en 3 jours. Autant vous dire qu'on ne va pas faire dans la dentelle. Dès l'ouverture du procès, les charges contre Natty, le petit frère, sont abandonnées. Il passe du banc des accusés à celui des témoins. Ensuite, c'est Fox qui est mis hors de cause. Trop simplé, acquitté. Robert se retrouve donc seul dans le box, à 13 ans. Et on commence par débattre de la préméditation. Et il semble que l'achat du couteau suffise à l'approuver. Ça, c'est réglé. Ce qui n'est pas réglé, c'est la question de sa personnalité. Est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il est fou? À l'époque, on disait « dément ». Et sur ce thème, Robert va recevoir un soutien de taille, celui de son père qui est rentré pour le procès. Il dit que Robert est particulier, mais que c'est un brave garçon. Il dit aussi que selon les médecins, son cerveau est anormalement développé, que c'est à cause d'un accouchement difficile qu'il porte encore les marques des forceps sur la tête, et que depuis, il souffre de maux de tête et de sautes d'humeur. Bref, il dit que son fils est atteint d'une maladie mentale, qu'il est dément, qu'il est fou, qu'il n'est pas responsable. Et qui plus est, dit-il, il a hérité de sa mère un tempérament excitable. En gros, le père dit « Mon fils est fou parce que sa mère, ma femme, l'était aussi. » Le médecin de la prison en remet une couche. Robert a une manie homicide. Son cerveau, dit-il, est comprimé dans sa boîte crânienne. Il a des pulsions irrésistibles, irrésistibles. En clair, il n'est pas responsable. Reste à savoir ce que le jury va faire de tout ça. Je vous rappelle le contexte. On est à la fin du 19e siècle à Londres. Eh bien, le jury le déclare coupable, mais dément au moment des faits. Robert échappe donc à la pendaison et à la prison. Le juge Kennedy prononce sa sentence. Le dénommé Robert Coombs sera détenu à l'asile de Broadmoor jusqu'à ce que soit connu le bon vouloir de sa majesté. Le bon vouloir de sa majesté. Robert sera donc enfermé dans un asile jusqu'à ce que la reine Victoria décide de le laisser sortir. Ou pas.
Europe 1, on de la traconte.
Robert est donc conduit à Broadmoor. Broadmoor se trouve à une 60aine de kilomètres de Londres. C'est un château entouré de fermes où sont internés 500 hommes qui ont été déclarés déments. Robert Coombs, qui n'a que 13 ans, va donc se retrouver au milieu de ces hommes qui sont en général beaucoup plus vieux et en vérité beaucoup plus fous. Et a priori, pour le gamin un peu fantasque qu'il est, ça risque d'être un enfer. Un enfer ? Eh bien non, ce passage à Broadmoor, loin de le briser, va lui offrir un nouveau départ. Et le psychiatre qui examine Robert est très, très embêté. Il pense que Robert n'a rien d'un dément. qu'il n'a rien à faire là. Il pense même que ce procès a été bâclé, qu'on n'a pas cherché les vraies raisons de ce meurtre, que la mère battait ses fils violemment et régulièrement, qu'elle avait menacé Nati avec un couteau, qu'elle terrorisait ses enfants, et que Robert, forcément, se sentait responsable de la sécurité de son petit frère. Et que le père était absent, qu'il était donc l'homme de la maison, qu'il y avait aussi sans doute des rapports incestueux avec sa mère. Car non, non, il n'est pas normal qu'il dorme avec sa mère à 13 ans. Et d'ailleurs, les policiers ont bien noté qu'elle était en sous-vêtements et pas en chemise de nuit quand on l'a retrouvée. En sous-vêtements, dans le même lit qu'un adolescent pubère. Bref, le psychiatre pense que Robert était tout simplement incapable de gérer toutes ses émotions contradictoires, qu'il était partagé entre la peur de sa mère et l'attirance pour sa mère, qu'il était obnubilé par la nécessité de protéger son petit frère, et que c'est pour ça qu'il s'était inventé un monde. Entre nous, ce psychiatre est absolument incroyable. On est à la fin du 19e siècle, et la psychiatrie est encore balbutiante. Et lui dit des choses d'une modernité hallucinante, très en décalage avec la justice expéditive de l'époque. En tout cas, ce diagnostic va avoir une sacrée conséquence sur la vie de Robert. Incroyable endroit que cet asile à cette époque. Au début, Robert travaille au jardin potager, puis dans un atelier de confection où il apprend le métier de tailleur. Il fait aussi beaucoup de sport, et notamment du cricket. Et surtout, la grande affaire depuis qu'il est à l'asile, c'est la musique. Il apprend le cornet, qui est une sorte de trompette, et le violon. Et il participe aussi à la chorale, à la fanfare et à l'orchestre. Bref, au bout de 15 années d'internement, le psychiatre estime qu'il est raisonnable, tranquille et stabilisé. Et qu'il peut être libéré. Et c'est le roi George V qui tranche, il le libère. Et il l'envoie à l'armée du salut qui va lui offrir encore une chance. Et voilà comment Robert se retrouve dans une colonie agricole de l'armée du salut, à Hadley, à la campagne, non loin de l'embouchure de la Tamise. Il faut quand même expliquer ce qu'est l'armée du salut à cette époque, à la fin du 19e siècle en Angleterre. C'est un mouvement chrétien, créé quelques décennies plus tôt, en 1865. Chrétien et ouvrier, tourné vers le monde ouvrier, avec un projet que son fondateur résume comme ça. Une forte proportion des péchés humains est liée à un environnement misérable. Il faut donc arriver à une régénération de l'individu et de sa condition. Et cette régénération est censée se faire par le travail, la vie à la campagne et la prière. Et Robert s'intègre parfaitement dès son arrivée. Il est nourri et logé en échange de son travail. Il est tailleur. Et très vite, il touche un petit salaire, parce qu'il travaille bien, parce qu'il va à la messe, parce qu'il se comporte bien. J'en profite pour rappeler l'incroyable chemin parcouru par ce garçon. Ne jamais oublier qu'à l'âge de 13 ans, il a tué froidement sa mère de deux coups de couteau. Et c'est là que va intervenir un événement qui va complètement bouleverser le reste de sa vie. Son père meurt. Et du coup, Robert touche un petit héritage. Et avec cet argent, il s'achète un billet pour une nouvelle vie. Aux antipodes, il s'achète un billet pour l'Australie. Et l'armée du salut le laisse partir. Et en janvier 1914, il prend le bateau pour Sydney. J'insiste évidemment sur la date. On est à quelques mois du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ce qui fait que quand il arrive à Sydney, c'est le moment où l'Australie, qui est indépendante de l'Angleterre depuis 13 ans, l'Australie décide de s'engager dans la guerre aux côtés de l'Empire britannique. Et Robert, très peu de temps après son arrivée, bah il s'engage, lui aussi. Il est jeune, il est vigoureux, il en a vu des vertes et des pas mûres. Et à 32 ans, il embarque sur l'Ulysse, un navire australien qui part à la guerre. Il est d'abord cantonné en Égypte. Et là, il est brancardier, et aussi un peu musicien. Il est formé par un médecin du bataillon, qui lui apprend à faire des bandages, à confectionner des écharpes, des attelles, et à administrer de la morphine aux blessés. Mais ça ne dure pas longtemps, car maintenant, il s'agit d'aller faire la guerre, la vraie. En avril 1915, il grimpe à bord d'un cargo crasseux, direction la Turquie, en vue de la bataille des Dardanelles. Il est débarqué à bord d'une chaloupe, dans une baie qui est bordée de collines rocailleuses. En face, il y a les Turcs. L'objectif est de prendre les collines, et lui son travail. C'est à chaque fois que quelqu'un crie « Brancardier, brancardier !» de se porter au secours, de donner les premiers soins et d'évacuer les blessés. Le tout sous un déluge d'obus et de balles de mitrailleuse. Et le soir, Robert creuse des tombes pour enterrer les morts. Pour les Australiens, ça se passe mal. Ils sont assiégés, ils ont des problèmes de ravitaillement, il fait une chaleur terrible, tous les soldats souffrent de dysenterie. C'est l'enfer. Et dans ses allers-retours entre la colline et la plage, Robert sera blessé 3 fois par des éclats d'obus et 1 fois par une balle. Et puis il aura aussi une hépatite. Et au mois de décembre, il est évacué vers l'Égypte, où il va se retaper avant de repartir au front. Il sera maintenant débarqué à Marseille en avril 1916. Il se battra dans la Somme, où 28 000 Australiens vont être tués. Mais pas lui. On dirait qu'il y a une étoile qui veut que ce garçon qui avait mal débuté dans la vie, qui aurait dû être pendu à l'âge de 13 ans, s'en sorte. Et à la fin de la guerre, il aurait pu rester en Europe. Il était anglais. Mais non, il veut poursuivre son rêve australien et il reprend un bateau pour Sydney où il arrive le jour de Noël 1918. En héros. Vous vous rendez compte? Il a tué sa mère avec une froideur qu'on ne peut pas oublier. Souvenez-vous qu'il a dormi dans le même lit que sa mère qu'il venait de poignarder. Et là, il est un héros.
On de la traconte sur Europe 1.
Robert arrive donc à Sydney le 25 décembre 1918. Il a maintenant 37 ans. C'est un miraculé. Il aurait dû être pendu pour avoir assassiné sa mère. Il aurait dû s'enfermer dans la folie dans l'hôpital psychiatrique où il a passé 17 ans. Il aurait dû mourir à la guerre comme sont morts la plupart de ses camarades. Et non, il est là. Il a survécu et on sent chez lui une envie de se poser, enfin, de se retirer des fureurs du monde. Alors il choisit le nord de l'Australie, le bush, loin de la civilisation. Il s'achète une petite maison, un petit champ et 8 vaches. Et voilà, il va vendre son lait, il va cultiver son potager et c'est tout. Il parle peu à ses voisins. On ne le voit au village que quand il va faire quelques courses et notamment acheter son tabac. Le dimanche, il va au temple, presque une vie d'ermite. Il ne participe à aucune commémoration ou activité d'anciens combattants. Il n'a pas de femme et il n'en cherche pas. C'est un solitaire qui s'est retiré du monde. Sauf qu'il va se passer quelque chose. Dans ce bush où pourtant il ne se passe pas grand-chose, qui va l'obliger à sortir de sa retraite. Son voisin, un certain Harold Smith, qui lui aussi a eu une vie agitée, qui a fait de la prison et qui est alcoolique, est un type qui terrorise toute sa famille. Et notamment son beau-fils, le fils de sa femme, un gamin de 11 ans, Harry. Et un jour, le petit Harry va prendre une rouste monumentale, à coups de cravache, au point qu'il ira trouver refuge au poste de police. On est au milieu des années 30 et Robert décide de s'occuper de ce gamin qui est rejeté par sa famille et qui est donc abandonné. Et ce Harry va le sortir de sa solitude, puisqu'il va l'accueillir chez lui. Harry l'aide à s'occuper de la ferme, mais pas question d'en faire son petit esclave. Il l'inscrit à l'école et le soir, il lui fait faire ses devoirs. On a vraiment l'impression que Robert, à ce moment-là, est dans la rédemption. Lui, le petit assassin monstrueux à qui on a donné sa chance, il veut rendre. Il veut rendre tout ce qu'on lui a donné. Il veut donner à son tour une chance à quelqu'un d'autre. Et comme toujours, quand on donne, on reçoit. Grâce à Harry, avec lequel maintenant il a monté une petite activité de maraîcher, des légumes qu'ils vont vendre en ville, en carriole à cheval, grâce à Harry, il se resocialise. Il est moins sauvage. Il se remet même à faire de la musique, de la trompette avec les anciens de son régiment, alors qu'il avait coupé les ponts avec tout son passé, l'Angleterre, l'armée, les anciens combattants. Il reprend contact avec ses camarades de guerre et un jour, il va même à Sydney pour participer à des commémorations. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Harry est grand, il a 18 ans, il s'enrôle dans l'armée et Robert se retrouve seul. On est en 1939, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va s'engager. Il va mentir sur son âge, parce qu'il a quand même 59 ans. Et le voilà dans un bataillon de défense du littoral de l'armée australienne qui est censé défendre le pays en cas d'attaque japonaise. Il va y rester jusqu'en 1942, date à laquelle il est rendu à la vie civile pour des problèmes de santé. À partir de 1942, Robert Coombs ne quitte plus son village du bush australien et son potager. Il échange quelques lettres avec son petit frère Natty, qui a lui aussi émigré en Australie, mais ils ne se sont jamais revus. On ne sait pas ce qu'est devenu John Fox, son complice au moment de l'assassinat de la mère de Robert. Il est probablement mort sur les docks de Londres. Robert fait une crise cardiaque en 1949. On fait prévenir Harry, qui se précipite à son chevet, mais qui arrive trop tard. Robert est mort, et comme il n'y a pas grand-chose dans l'héritage, Harry n'a pas les moyens de lui payer une pierre tombale. Alors on pourrait dire, ben voilà, la fin d'une vie incroyable. Mais qui va s'en souvenir? Qui se souviendra que Robert Coombs a existé? Qui pourra dire qu'une vie n'est jamais jouée d'avance? Qu'il y a une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième chance? Harry, qui doit beaucoup à Robert, va entretenir la mémoire de Robert Coombs. D'abord dans sa famille, il va raconter à ses enfants et à ses petits-enfants le destin incroyable de son père adoptif, dont il ne savait pas grand-chose d'ailleurs, et surtout pas le début de l'histoire, le crime, le meurtre sauvage. On pense que Robert ne lui a jamais raconté toute l'histoire. Et en 1996, il y a donc 20 ans, Harry a fini par donner à Robert Coombs la pierre tombale qu'il méritait. En le voyant en larmes au cimetière, sa fille lui a dit « C'est bien ce que t'as fait pour Monsieur Coombs. » Il lui a répondu, c'est qu'il s'est si bien occupé de moi. Et cette tombe, si vous allez en Australie, vous la trouverez dans le cimetière de Coffs Harbour, sur la côte ouest. Est inscrit dessus son nom, les différents bataillons dans lesquels il a servi, et la date de son décès. Et cette phrase, « À jamais dans le souvenir de Harry Mulville et de sa famille. Il n'y a ni lieu, ni date de naissance, et il n'est fait mention d'aucun autre événement. » Et on ne remerciera jamais assez la journaliste Kate Summerscale d'avoir fouillé les archives pour exhumer et raconter cette histoire dans un livre qui vient de paraître et qui se lit comme un roman et que je vous invite vraiment à lire. Ça s'appelle « Un singulier garçon » aux éditions Christian Bourgois. Car elle s'est aperçue que s'il y a aujourd'hui des descendants de Harry Mulville en Australie, aucun n'était au courant des débuts dans la vie du bienfaiteur de leur famille. Dans le métier que je fais, les rédemptions sont rares et celle-là méritait le détour.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.